le psaume 139, vous vous souvenez? Et puis, alors dimanche dernier, on avait invité, donc on ne l'a pas vu, mais on va reprendre ce dimanche. Alors comme il y a déjà 2 semaines, je vais juste faire un petit rappel rapidement de ce que nous avions vu. On avait parlé de la présence de Dieu en tout lieu. Il est omniprésent, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Et dans ce psaume de David, donc il est parlé de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu sait tout. On va s'y attarder un peu ce matin. Alors nous avons parlé de cette omniprésence de Dieu et nous avions vu que Dieu est en tout lieu et que lui seul est présent partout et que lui seul peut faire cela. Satan est limité, mais Dieu est illimité et nous bénissons le Seigneur. On peut défiler, voilà, un petit peu là, juste en survol, on peut continuer. Et puis voilà, donc nous avions parlé de tout ce que cela implique dans nos vies. Puisque Dieu est présent en tout lieu, on ne peut pas lui échapper et nous pouvons lui faire pleinement en confiance et lui recommander nos cœurs. On peut continuer. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Voilà, Jésus est au milieu de nous. Aussi, sa présence est effective, sa présence, elle est bénissante et sa présence, elle est agissante pour tous ceux qui ont fait alliance avec lui, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu d'eux, que son nom soit glorifié. Après ce bref rappel, on va faire une lecture, on va le relire en entier pour bien se remémorer ce psaume qui est merveilleux. Et ce matin, donc, on va voir plusieurs choses encore par rapport à ce psaume. Donc on reprend le psaume 139, un psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Psaume extraordinaire, merveilleux, que nous allons continuer ce matin et après avoir vu la dernière fois que Dieu est présent en tout lieu, nous verrons ce matin que Dieu sait toutes choses. Que Dieu sait toutes choses et nous verrons aussi qu'il est souverain. Et puis nous parlerons des sentiments, des émotions que que David exprime, et c'est à mon sens le cœur du psaume, et ça sera aussi le cœur de ce message ce matin. Mais parlons de l'omniscience de Dieu, puisque David l'évoque au début du psaume. Il parle de ce Dieu, il porte nos regards vers ce Dieu qui sait toutes choses. Rien n'échappe à sa connaissance. Dieu sait tout, il connaît tout, il comprend tout, lui seul, et ainsi. Nous ne savons pas tout. Dieu connaît tout parfaitement. Il connaît tout, il n'a pas besoin de réfléchir sur les choses pour les connaître, pour les comprendre. Il sait tout, il n'a pas besoin de chercher. Nous avons besoin de chercher pour comprendre. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui cherchent pour essayer de connaître, pour essayer de comprendre. Mais Dieu n'a pas besoin de faire cela. Il sait tout et il comprend tout puisqu'il est le créateur de toutes choses dans sa souveraineté, dans sa puissance. Il est celui qui a conçu toutes choses. Il se connaît lui-même parfaitement. Aucune créature dans les cieux et sur la terre ne se connaît parfaitement. Je ne me connais même pas moi parfaitement. Je ne sais pas vous, hein. Mais des fois je me surprends moi-même. Hein. Mais je ne surprends pas le Seigneur en tout cas. Parce qu'il sait toutes choses. Avant même que je parle, il sait déjà ce que j'allais dire. Il connaît tout de loin. Dieu se connaît lui-même parfaitement. Et toutes les personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, se connaissent parfaitement. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu, non seulement connaît l'avenir, mais il sait le passé, il sait toutes choses, il sait tout ce qui se passe en même temps, en tout lieu. Il sait l'avenir, il sait à l'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Qui décidera de le suivre et qui décidera de ne pas le suivre. C'est ce qu'on appelle la prescience de Dieu. Dieu sait toutes choses à l'avance. Alléluia, que Dieu soit béni. Il sait ceux qui prendront des voies tortueuses, comme il sait aussi ceux qui prendront la voie de la justice, l'étroit chemin que nous a tracé le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen. David dira une chose, on peut passer à la page suivante. David dira que tu me sondes, tu me connais. Il emploie ces termes, ces verbes, sonder, connaître, pénétrer. Tu me sondes, tu me sondes. On voit ici que ce verbe sonder dénote vraiment un regard complet de Dieu, attentionné, attentif sur nous. Rien ne lui échappe à notre sujet. Non seulement on ne peut pas lui échapper, j'allais dire, physiquement, où irais-je loin de ta face, comme nous l'avons vu, eh bien, la semaine dernière, mais aussi, on pourrait essayer de se cacher dans nos pensées, mais il nous sonde, il est là, il voit toutes choses, il sait toutes choses, ses regards sur nous sont attentifs, attentionnés, complets, rien n'échappe, il ne nous regarde pas d'une manière superficielle, il nous sonde et il nous connaît. Amen. Il perçoit directement ce que je suis. Il a connaissance parfaite de ce que nous sommes. Il sait tout mieux que nous. Il est même écrit dans le Nouveau Testament, et Jésus le dira, qu'il sait même tous nos cheveux. Ils sont tous comptés, nos cheveux. Essayez de compter vos cheveux tout à l'heure en rentrant après le culte, hein. Vous allez y passer plus que l'après-midi. Hein. Mais le Seigneur compte même tous nos cheveux. Alléluia. Il sait, même quand il y en a un qui tombe par terre, il sait toutes choses. Que son nom soit glorifié. Tous les recoins de notre vie, il les connaît. À lui seul soit toute la gloire. Et puis, David emploie encore ce terme, tu pénètres de loin ma pensée qui, ce verbe pénétrer peut être traduit différemment selon les versions. Peut-être vous avez une autre version. Il pourrait être traduit, tu comprends ma pensée. Il comprend notre pensée et nos motivations réelles de ce que nous avons dit et de ce que nous pensons. Il pénètre toute chose. Il comprend toute chose. On peut le traduire aussi, tu discernes tu discernes, peut-être certaines versions. Et aussi, une autre version dit, tu dissèques. Hein, disséquer, voilà. Tri, là. Il voit toute chose, tous les tenants et les aboutissants de toute chose. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Rien n'échappe à sa connaissance. Que son nom soit glorifié. Après avoir parlé de l'omniscience de Dieu, la première qualité d'ailleurs que David évoque dans ce psaume, il nous parle de son omniprésence, une deuxième qualité qu'il évoque, et nous l'avons déjà vue la fois dernière. En suivant, il parle de sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, nous la voyons à partir du verset 13. David s'émerveille de ce que Dieu sait toutes choses. Il s'émerveille et il nous émerveille en même temps de ce que Dieu est présent en tout lieu. Et puis il s'émerveille et nous émerveille en même temps au sujet de la souveraineté de Dieu sur notre vie. Dieu est souverain sur notre vie du début à sa fin, et je dirais même mieux, avant même le début. Avant même le début, hein, puisqu'il l'évoque même. Il évoque ces choses-là avant même. Hein, il savait toutes choses avant même, eh bien, de nous avoir créés. Cette souveraineté de Dieu veut dire beaucoup de choses. Dieu, qui est notre Créateur, a aussi un projet pour chacun d'entre nous. David dira, j'ai été créé, au verset 15, « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que aucun d'eux n'existât. » Amen. Alléluia. Et puis, il dira encore au verset 13, « C'est toi, Seigneur, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » C'est Dieu. Il est souverain, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous crée, c'est lui qui nous tisse. Nous ne sommes pas des créatures issues du hasard. Dieu nous a voulu, il nous a créé, il nous a formé, il nous a tissé. Il nous a tissé. Les moindres parcelles de notre peau viennent de lui. Peut-être, parfois, on dirait, ah ben, j'aimerais bien avoir une oreille plus petite, je ne sais pas vous, mais... mais c'est Dieu qui nous a tissé ainsi, alléluia. C'est lui qui a fait ce que nous sommes avec le visage que nous avons, la silhouette que nous avons. Et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous accepter tels que nous sommes. Cela veut dire beaucoup quand on creuse la chose. Nous accepter tels que nous sommes parce que c'est Dieu qui nous a formés ainsi. C'est Dieu qui a fait que je sois un homme. Alléluia. Et je m'accepte en tant que tel. Et pareil pour les dames. Acceptons-nous tel que Dieu nous a créés avec l'identité qu'il nous a donnée. C'est toi, Seigneur, qui m'as tissé dans les profondeurs de la terre. C'est toi, Seigneur, qui m'as créé. Nous nous acceptons tel que nous sommes. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Quand bien même, je dirais, que je sois le fruit d'un accident. Oui. Parfois, les parents n'avaient pas programmé une naissance. Ah, il y a des accidents comme ça. Mais ce qui est peut-être pour les hommes et les femmes un accident ne l'est pas pour Dieu. Nous avons été désirés par Dieu. Désirés par Dieu. Et nous ne sommes pas le fruit du hasard pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a tissés. Alléluia. C'est lui qui savait tous nos jours, avant qu'aucun d'eux existât, que son nom soit béni. Alléluia. Il est le maître du début de mon histoire jusqu'à la fin de mon histoire. Je ne mourrai pas un jour plus tôt ou un jour plus tard que ce qu'il a prévu. Personne ici-bas, personne ne peut rajouter une coudée à la longueur de sa vie. Personne. Il est le maître du début, il est le maître de la fin, l'alpha et l'oméga de notre vie, le début et le commencement de notre vie, que son nom soit glorifié. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas nous inquiéter, parce qu'il est là chaque fois souverain, il maîtrise toutes choses, que son nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as un plan pour nos vies et nous voulons entrer dans le plan que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Ô Seigneur, nos yeux s'émerveillent devant ce Dieu tel que nous le décrit, eh bien, David dans ce psaume. David dans les psaumes écrit beaucoup sur Dieu. Son cœur est porté sur Dieu et ce qui est remarquable, c'est que cet homme qui fut rempli de l'Esprit, bien, a cette, j'allais dire, faculté qu'il a reçue de Dieu, ce talent qu'il a reçu de Dieu, ce don qu'il a reçu de Dieu, de nous entraîner avec lui pour qu'on puisse regarder au Seigneur. Mais il y a quelque chose qui dénote dans ce psaume, et souvent dans les psaumes de David d'ailleurs, c'est que David nous amène aussi, avec sa propre expérience, à regarder ce que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites, voire pire, nos péchés, comme ce fut le cas, malheureusement, de David. Et là, on va s'arrêter, parce que ça va être le cœur de notre message après avoir vu tout ce qu'on a vu. Et on va relire ce passage parce que c'est important et c'est, à mon sens, le cœur de ce psaume. On va relire les versets 19 à 24. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On voit ici avec ces versets que le ton de David change radicalement. Après avoir porté nos regards sur ce Dieu qui sait tout, sur ce Dieu qui est présent partout, sur ce Dieu qui est souverain, après avoir émerveillé nos cœurs devant ce Dieu-là, David change radicalement de ton. Pour exprimer des émotions, des sentiments très forts, il parle de dégoût, il parle de haine, de parfaite haine même. Et ces expressions de David paraissent violentes quand on les considère à la lumière du Nouveau Testament, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a des psaumes comme cela où on évite certains passages. Il y a des psaumes qui ont été mis en chanson. C'est assez fréquent, hein. Il y a des psaumes de la Bible qu'on met en chanson. Et parfois, pour certains psaumes, il y a certains passages qui sont mis en chanson, mais pas tout. Parce qu'il y a des choses gênantes. Toutefois, si c'est inscrit dans la parole de Dieu, c'est que ça a sa raison d'être. Comme autre exemple du psaume 139, il y a aussi le psaume 137. Ah, multiples chanteurs a composé ce psaume 137, un merveilleux psaume. Juste avant d'ailleurs, le psaume 139. Il a été composé des dizaines de fois. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Ouais, vous connaissez ce psaume. Il a été mis en chanson déjà par les gospels et puis par beaucoup d'artistes. Mais aucun n'a mis en chanson les deux derniers versets, et surtout pas le dernier verset, où il est dit « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». C'est terrible ça. Bon, on pourrait en faire un sujet de prédication quand même. Hein. C'est dans la parole de Dieu. Comprenez ? Et si c'est dans la parole de Dieu, ça a quelque chose à nous dire. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Alors il y a le psaume 137, puis il y en a d'autres comme ça dans les psaumes. Hein. Mais on va revenir au psaume 139, où David exprime donc ses sentiments de haine, ses sentiments de dégoût envers des personnes qui sont considérées par lui comme étant méchantes, des hommes de sang, des hommes qui prennent le nom du Seigneur pour mentir, et au verset 1, il parle de toi d'une manière criminelle. Oh là, David, il a la moutarde, j'allais dire, qui lui monte au nez. Hein. Alors c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, à la lumière du Nouveau Testament, ça nous paraît violent, puisque Jésus nous dira de bénir nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Et de pardonner. Toutefois, comme David exprime ici ses sentiments, ne nous est-il pas arrivé un jour ou l'autre de faire face à du harcèlement ? David a dû faire face à de sérieux harcèlements. Alors on pense souvent, bien sûr, à son ennemi, Saül, mais d'autres. Son propre fils l'a harcelé, voulait le tuer. Hein. Son propre fils. J'espère que c'est arrivé à personne parmi nous ce matin que son fils essayait de le tuer. C'est ce qui est arrivé à David. Parfois, on a à faire face à l'injustice. Et le sentiment d'injustice, c'est quelque chose vraiment qui... Pas vous, hein, mais quand une injustice nous est faite, surtout quand c'est répété. Hein. Alors là, peut-être, Seigneur, fais-moi justice. La moutarde peut nous monter aussi au nez. Quand on a à faire face à la méchanceté d'un collègue, d'un patron, d'un voisin, les problèmes de voisinage, ou d'un membre de notre famille, ça fait d'autant plus mal quand c'est quelqu'un de la famille. Quand nous avons à faire face à ces méchants, à ces hommes de sang, comme les appelle David. Et cela est d'autant plus difficile quand ces mêmes personnes parlent de Dieu d'une manière criminelle, ce Dieu dont nous sommes émerveillés, qui sait toutes choses, on a été émerveillés devant la description que nous fait David de Dieu. Et nous sommes émerveillés nous-mêmes devant notre Seigneur, mais ces personnes-là injurient notre Seigneur que nous aimons tant. Pire, ils prennent son nom pour mentir, pour manipuler, pour tromper les gens. Alors, à ce moment-là, le désir de justice peut nous remplir. Ce désir de justice que nous exprimons devant Dieu, et David en tout cas ne cache pas ses sentiments devant Dieu, parce qu'il sait que de toute manière Dieu sait toute chose. Rappelons-nous qu'il commence par ça. Avant même que je dise quelque chose, Seigneur, tu le sais. Il sait que Dieu pénètre ses pensées. Il exprime. Autant avouer nos sentiments devant le Seigneur. Il les connaît. Où vais-je fuir avec de tels sentiments? Où vais-je aller? Où fuirai-je loin de ta face? Tu y es déjà, Seigneur. Et tu es souverain. Alors David exprime. David exprime ses sentiments devant son Dieu. Et rappelons-nous, à ce moment-là, qu'il vaut mieux les exprimer devant Dieu. Parce que ces sentiments-là peuvent nous faire plonger dans l'amertume, nous faire basculer dans l'amertume et nous amener à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, à faire des choses qu'on ne devrait pas faire et à prendre une mauvaise voie. C'est pour cela que David dira, regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. C'est pour cela que David dira, il commence d'ailleurs, il termine, excusez-moi, le psaume par là où il commence, « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mes pensées. » Comprenez, c'est pour ça que ce passage-là, c'est vraiment la clé, le cœur du message de ce psaume. Seigneur, oui, j'ai ces pensées, parce qu'on m'a fait du mal, j'ai des pensées mauvaises. J'aspire à ce que ça se termine, que ces hommes méchants, à ce que tu fasses justice, Seigneur. Rappelons-nous que nous exprimons ces pensées devant Dieu. Rappelons-nous que ces pensées-là, Dieu les connaît. Rappelons-nous qu'au moment où nous allons être confrontés à de telles personnes et que nous serons prêts à répondre du tac au tac, Dieu, avant même que nous parlions, il sait déjà ce que l'on va dire. Et nous voulons dire, Seigneur, sonde-moi plutôt. Sonde-moi, Seigneur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Dans ces moments-là, oui, faisons cette prière, comme David fait cette prière, parce que ce sentiment de dégoût, ce sentiment de haine est là dans son cœur par rapport à ses propres personnes-là. Et regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Peut-être qu'à un moment donné, David a eu ce sentiment face à Saül, lorsqu'en plus des hommes l'excitaient à tuer Saül. Vas-y, il est à ta portée de main là, il est en ton pouvoir, tu peux lui infliger un clou d'épée et c'est terminé. Alors, David a là, ces sentiments-là. Il a pris son épée, il a juste taillé un peu là, le bord du vêtement de Saül, rien que ça, ça. Son cœur a frémi, il a été saisi. Non, non, je ne toucherai pas à Saül. Et parfois, on a l'occasion, parce que des personnes sont en notre pouvoir, de nous faire justice nous-mêmes. Mais rappelons-nous une chose, c'est que Dieu sait, Dieu est présent et Dieu est souverain. Et le sachant, cela nous amène à regarder à Dieu et à dire que Dieu, mais Seigneur, mais suis-je bête? Tu contrôles toutes choses et cela nous invite à la confiance plutôt. Alléluia. Et comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 17, Romains 12, on peut le lire. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. » Écoutons bien là la conclusion que Paul donne à ce passage. Verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Tout est dit. Avec ces versets de l'apôtre Paul, tout est dit. Ne vous vengez point vous-même, laissez agir la colère. Ça appartient au Seigneur, ça ne nous appartient pas. Mais si j'ai la possibilité même de faire du bien à ces gens-là, à ces personnes, vas-y, fais-le. Si la faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Oui, il y a ce dégoût que David exprime, il y a cette haine que David exprime là, cette parfaite haine, comme il le dit même. Mais David est un homme de Dieu. Même il est écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il ne va pas se laisser submerger par ces sentiments-là. C'est pour cela qu'il dit, et juste après, « Sors de moi, ô Dieu ». Il ne veut pas que ces sentiments-là le submergent. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et si c'est au-dessus de tes forces par rapport à ce que tu vis actuellement, faisant une prière comme David, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le bien, déjà, premièrement, en te confiant dans le Seigneur, en priant le Seigneur. Alléluia. Afin qu'il agisse, premièrement, déjà dans ton cœur par rapport à ces propres personnes-là, à ces criminels, à ces gens odieux, à ces gens méchants, ces hommes de sang, que Dieu agisse dans ton cœur, sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, parce que moi-même, Seigneur, je n'en sais rien, je n'ai pas une connaissance parfaite de moi-même, mais toi, tu me connais parfaitement. C'est le début du psaume. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et mieux que ça, conduis-moi. Alléluia. Donc Dieu nous montre, Dieu nous éprouve, mais aussi il nous conduit. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Le Seigneur nous a tracé la voie, cette voie qui va jusqu'à la croix. Lui qui injurié n'a point fait de menace. Là aussi, hein, le Seigneur aurait pu avoir cette haine, ce dégoût face à ceux qui l'insultaient, à se moquer de lui, face à ceux qui lui crachaient dessus, face à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il a été injurié, mais il n'a point rendu d'injure, il n'a point fait de menace. Et nous voulons suivre ses traces. Il s'en est remis à son Père, à celui qui juge justement, est-il écrit dans l'épître de Pierre. Il nous a tracé la route face à ces situations dans lesquelles nous sommes, cette route de la croix. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Tu es le souverain de ma vie. Tu es le souverain de ma vie. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que aucun d'eux n'existât. C'est toi qui en es le maître, Seigneur. Que son nom soit glorifié. Alléluia.